catéchisme pour les enfants. C'est ce qu'on fait pour la préparation à la communion solennelle. Hein. Donc, moi, je suis communion solennelle. C'est après la confirmation. Grande, on va appeler ça la grande. La bar mitzvah catholique. Alors, voilà. Il y a sept dimensions dans l'homme. C'est pour ça qu'il y a tous les tableaux. Dans les tableaux, il y a sept colonnes. Les tableaux sur la confession, les tableaux sur la... tableau sur le baptême, il y a sept colonnes. Je connais déjà par cœur. Le tableau, c'est comme parce qu'il y a sept dimensions en nous. Dans l'homme, il y a sept dimensions. Il est contemplation, il est amour, il est inscrit dans une liberté divine à l'intérieur d'un corps, dans un lui très incarné, dans une goutte de sang, et un mouvement éternel d'amour libre. Il est capable de transformer le monde, c'est un artiste, il est capable de splendeur, de magnificité, de splendeur et de beauté. Quatrièmement, c'est un adorateur, il est capable d'union, d'adoration, parfaite avec Dieu. Il est le récepteur du corps mystique de l'humanité tout entière. Il est une famille à lui tout seul, et membre d'une famille, récepteur de la famille, et glorificateur de la famille et de la communauté humaine tout entière. Il coopère à tout ce que les autres ne font pas. Il y a une dimension sociale, politique, familiale, communautaire, mystique, corporelle, ecclésiastique, jérusalémique, si je puis dire. Voilà, donc vous avez les sept dimensions de l'homme. Pour ça que dans l'Apocalypse, vous avez un dragon avec sept têtes, qui sont les sept formes de l'athéisme, pour empêcher ces dimensions de l'homme d'être humaines en nous. Hein? Donc c'est le fameux tableau à sept colonnes. C'est à cause de ça que pour la restauration, vous avez sept sacrements, sept dons du Saint-Esprit, sept demeures de l'union transformante, etc. Donc, c'est la sagesse à adresser ces sept colonnes. Alors, voyons maintenant pour l'Eucharistie. L'Eucharistie elle-même va reprendre toutes ces dimensions de l'être humain dans les sept sacrements. Chacun des sacrements est nécessaire pour reprendre. Or, décrit de la gueule du dragon à cette tête, notre humanité dans le Christ. Pas un sacrement qui ne soit pas nécessaire à chacun d'entre nous. Alors, on regarde du coup les sept églises, les sept coupes de l'Apocalypse, les sept trompettes, les sept signes de l'Apocalypse, comme des fruits de l'Eucharistie. Vous savez, alors voilà. Et alors, en fait, c'est un résumé, bien sûr. Hein, c'est une, un tableau à sept colonnes, c'est pour avoir une vision de loin de l'ensemble. On ne peut pas approfondir tout, hein, mais on peut parcourir rapidement pour voir qu'il y a une harmonie, une splendeur, une beauté, une intériorité dans le déploiement eucharistique. Hein. Quand il y a la mission invisible eucharistique de notre Seigneur à chaque messe, d'ailleurs, il y a une liturgie de l'Église qui montre que Jésus est présent réellement et que la messe de Jésus, c'est-à-dire l'envoi mystique de la présence réelle au milieu de nous, sur l'autel de Jésus, commence. Sa présence réelle est déjà là avant que la messe ne commence. C'est pour ça, vous voyez, qu'on sonne les cloches. Dun, 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 dun. En principe, 20 minutes avant, ça veut dire, les cloches, le prêtre est dans l'église, il est dans la sacristie, il est en train de se revêtir. Et donc, vous avez déjà, quand les cloches sonnent, la présence réelle de la messe a commencé. C'est pour ça que l'église catholique dit, quand on va à la messe, il faut venir une demi-heure avant. Sinon, on échappe à l'incarnation. l'incarnation commence, la présence réelle de l'union hypostatique, le prêtre se révèle dans le côté caché de la sacristie. Les cloches ont sonné. Donc, les cloches ont sonné. Tout de suite, tout le monde se précipite, comme tout le monde se précipite comme Marie pour dire oui au mystère de l'incarnation. On disait en communion, on sait qu'il y a la présence réelle de la messe qui a déjà commencé, n'est-ce pas? Et quand le prêtre sort de la sacristie, rentre dans l'église, hein, embrasse l'autel, c'est la nativité. C'est la nativité du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, qui est réellement présente. C'est pour ça que les premiers mugissements de l'agneau, les premiers cris, c'est un cri qui est un petit cri, Seigneur sauve-nous, Kyrie eleison. En même temps que le monde angélique, Gloria in excelsis Deo, proclame le sacrifice de notre Seigneur Jésus qui ouvre les portes à la libération de l'enfer. C'est pour ça qu'il y a le Kyrie Gloria. Après, bien sûr, on se nourrit de la parole de Dieu pour manifester la présence messianique dans laquelle Jésus, Marie, Joseph, tous les enfants, etc., la terre, se nourrissent de la parole de Dieu et grandissent avec la Torah. Et puis, bien sûr, il va y avoir le grand évangile de la présence de l'unique sacrifice dans une seule déchirure de l'union hypostatique de Jésus en trois personnes, Marie et Joseph, pendant les années de la maturité de 12 à 30 ans, 33 ans. C'est la présence réelle précisément de la Haggadah qui est prononcée, les psaumes et l'évangile. Le sermon représente la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres et les explications qu'il en donne. Présence réelle du Christ qui montre son sacrifice à travers la manifestation réelle, la présence du royaume de Dieu. Puis en fait, il va y avoir l'offertoire. Dans l'offertoire, Jésus monte à Jérusalem et se met entre les mains des pécheurs, se met entre les mains du Père. Le canon commence et la sainteté du Père, du Fils, du Saint-Esprit est réellement présente. Et ça représente bien sûr la mise sur la croix, où Jésus se dépose sur la croix et se laisse clouer. C'est pendant le canon, ça. Et les paroles du canon indiquent que vous êtes en présence réelle déjà du sacrifice commencé, de la passion. La passion a commencé dès le départ, du reste. Mais cette partie de la passion-là est sous vos yeux. C'est l'ensemble de la messe qui est un sacrement, n'est-ce pas? Et à chaque fois, c'est présence réelle. Et au moment, bien sûr, du canon, c'est la consécration, la séparation de l'âme et du corps. Jésus est mort, vous le savez ça. À la communion, il y a quelque chose de l'introduction, de la résurrection de l'âme glorieuse de Jésus de Joseph jusqu'à la fin du monde, qui permet de rentrer dans Marie à la capacité et de nous-mêmes de nous unir et de laisser surabonder dans le Christ le mystère de la résurrection. Et c'est ce que représente la communion, jusqu'à ce qu'il y ait cette dormition parfaite du Christ en Marie, de Marie dans le Christ, prêtre éternel, victime éternelle d'amour glorieux, dans l'Assomption. Et c'est ce que représente la bénédiction finale, c'est la présence réelle de cette grâce-là, du sacrifice de Jésus. Ça va? Donc vous voyez, vous avez les sept étape de la messe, qui établit ce grand mouvement, qui est un mouvement eucharistique. Il fait ça avec la joie profonde de la délivrance universelle et de la consolation éternelle. Voilà, et c'est pour ça que vous avez les différentes étapes, convocation, les cloches, la liturgie de la parole, l'offertoire, le canon, la consécration, la communion, l'action de grâce. Vous avez bien les sept grandes parties de la messe qui sont là. Vous saviez ça, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on peut assister, quand on est à la messe, on fait oraison. Vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez très bien faire oraison et vous enfoncer dans l'effacement de vous-même pour que l'apparition de la mission invisible du Verbe de Dieu, dans son sacrifice, dans la plénitude de toutes ses formes, envahissent l'humanité tout entière à travers votre oraison pendant ce temps-là. n'est-ce pas ? Une union, une communion, une participation, c'est la manière de vous de coopérer à la messe. Si moi, je n'ai pas le temps de faire oraison, mais quand vous assistez à la messe, il faut le faire avec l'oraison, l'oraison. C'est une intégration, c'est une assimilation, une disparition, un effacement. Il n'y a aucun mouvement ne venant de vous. L'oraison prime sur la messe, comme je viens de vous l'expliquer, l'oraison prime sur la messe, mais elle n'est pas séparable de la messe. Ce que disait Marthe Robin, Marthe disait, l'oraison prime sur la messe. On va dire, ah bon, puisque c'est comme ça, je vais me mettre dans mon canapé, je fais oraison. Et la messe, le fruit de la messe, c'est dans l'union de le sacrifice eucharistique de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les temps et tous les lieux, et l'oraison. C'est l'émanation de l'unité des deux. Alors on continue, vous voyez. Ce qui se passe dans chacune de ces étapes dans notre oraison, c'est qu'on est assumé dans la cinquième demeure. C'est la troisième colonne, la troisième ligne. Parce que la cinquième demeure de l'union transformante, c'est le fait qu'on est entièrement assumé par le passage de Dieu qui nous assume en nous, dans le sacrifice eucharistique, dans l'au-delà de l'unité des deux, il assume quelque chose de nous. Assomption. Et comme il assume quelque chose de nous, il prend en nous la nature humaine, qui est la nôtre, celle de Jésus, celle de Marie, et la nôtre. Et du coup, c'est toute la nature humaine qui est assumée et qui nous est présente dans cette assomption. Et là, on est suspendu, n'est-ce pas ? Dans cette suspension, on est dans la cinquième demeure. Il faut simplement vivre, c'est tout. Vous vivez la messe dans la cinquième demeure et ça donne ça, les assomptions. Vous voyez ? Cette espèce de tension, et qu'il y a un lien nécessité entre la résurrection de l'âme de Jésus, la résurrection de Joseph et l'assomption de Marie. Une tension entre les deux, une assomption. Toute la nature humaine est assumée. Et cette tension, elle fait le cours de la cinquième demeure, du cinquième saut de l'Eucharistie. C'est pour ça que vous avez ici. La très sainte Trinité est entièrement assumée dans le mystère de la croix, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son sacrifice. Regardez. D'abord, le Verbe de Dieu, dans son sacrifice, assume le corps de l'humanité tout entière. Notre corps, il est assumé par quoi quand Dieu nous crée ? Par l'âme que Dieu crée. Quand Dieu crée en nous l'âme, elle assume le corps de l'intérieur du corps. Comme un buvard assume la tache transparente de la vie. Et parfumée, et vivifiante, et palpitante. On voit bien que le corps est entièrement assumé par l'âme. L'âme est assumée par quoi ? Elle est assumée par la vie divine, la participation à la vie sainte. La grâce sanctifiante, c'est de la lumière. L'âme aussi, c'est de la lumière. Mais la lumière de la grâce est fabriquée avec de la lumière. C'est une lumière vivante, mais purement divine. C'est celle qui actue l'intériorité des personnes de la très sainte Trinité avant la création du monde. C'est cette lumière-là qui est introduite dans notre âme pour assumer notre âme. Un petit peu comme la même manière que donc le corps est assumé déjà par l'âme. L'âme elle-même assumée par la grâce sanctifiante. C'est une assomption. Ce n'est pas une disparition, mais presque.
C'est pour ça que j'ai soif. C'est un peu ça.
Oh, un peu ça. Oui, parce que vous dites ça à cause du buvard. Mais c'est une allégorie. La vie divine est assumée par l'union hypostatique déchirée de Jésus dans la gratitude du Verbe et de l'épouse et de l'époux. Et c'est le trait profond et éternel de la divinité glorieuse de l'un dans le trois et le trois dans l'un qui assume cette union hypostatique déchirée dans la gratitude éternelle de l'épouse et de l'époux. Vous voyez bien qu'il y a donc une assomption qui commence par la fin, mais qui dès le départ est la nôtre, puisqu'on démarre à l'assistance de l'Eucharistie dans la cinquième demeure, si on est catholique du cinquième saut de l'Apocalypse, c'est-à-dire de l'an 2013. ceux qui prennent le train en retard, vous savez, un sera pris, l'autre laissé. À ce moment-là, il y aura un sera pris, l'autre laissé. Au moment de l'heure, un pris, l'autre laissé. Il y en a deux qui sont dans un lit, un est pris, l'autre laissé. Dans un champ, il y aura un... Ah, tu seras avec ta... Tu l'as avec ton épouse, tu vois. Elle est très très pieuse, mais toi, tu es dans la cinquième demeure. Tu n'es pas pieux du tout, mais tu fais raison. Ta femme ne fait pas raison, elle est trop occupée, elle a beaucoup de choses à dire à ses voisines, après la messe. Alors, voilà. Alors, toi, tu es pris, et elle dit, oh, ça alors, c'est lui qui est pris, moi, je reste. Cinquième demeure. Un pris, l'autre laissé. Il ne faut pas oublier qu'on sera emporté, quand même. On sera emporté quatre fois. Le premier saut de l'Apocalypse, le premier, l'avertissement, le cinquième saut de l'Apocalypse, c'est un emportement. Hein. Il y aura aussi le rapte hein, après. Hein. Le sixième saut de l'Apocalypse, c'est un rapte. Hein. On sera complètement emporté. Dans une autre partie de la terre spéciale. Réservé à ceux qui sont dans le mariage spirituel, la septième demeure. Ceux qui n'y sont pas, tant pis, ils resteront et ils seront purifiés par le feu de l'amour, l'eucharistique émanant des noces de l'agneau où ont été emportés tous ceux qui étaient prêts. Bon, ça n'a rien à voir, d'accord.
Mais c'est pour bon. Il est bon les atrocités.
Non, mais moi je laisse pas mon
époux,
hein.
Je
l'emmène avec moi.
Bon, on ne te demandera pas ton
avis.
C'est toi. C'est nous, notre don à Dieu, notre abandon en Dieu, j'allais dire, est irréprochable. La cinquième demeure est irréprochable puisque Dieu fait tout ce qu'elle veut, lui, et me nourrit dans ce que je désire, uniquement du mouvement éternel d'amour du Père, pour que ce mouvement éternel d'amour soit tout entier et réprochable, partout présent, et pour toujours. Donc c'est parce que tu as envie. Parce que tu as envie, déjà terminé depuis longtemps. Mais ça ne t'empêche pas, bien sûr, de réaliser la transactuation sur notre responsable continuellement. Dans la cinquième demeure. Alors, dans la messe, chaque messe du Saint-Père, chaque messe, dit en plus en une fois, un million de fois, puisqu'il y a un million de messes par jour à peu près, n'est-ce pas? C'est toutes les alliances, comme on l'a vu, les alliances de Melchisedec, les alliances des dépôts, qui sont présentes. Ces alliances avec Dieu, dans la messe, une alliance qui se fait, Jésus se donne et toute l'humanité se donne à travers nous à Jésus. Et c'est une alliance totale avec le Père, l'Esprit Saint. Et toutes les alliances anciennes sont actuelles, présentes devant nous. C'est pour ça que dans la messe, vous l'avez, ça. Hein, c'est une alliance personnelle avec chacun d'entre nous. C'est une alliance fraternelle. C'est pour ça qu'il y a l'évocation d'Adam dans le pain. C'est représenté par le pain. Une alliance fraternelle qui est représentée dans le fait que le pain est offert. Vous savez, quand Abel a offert le pain, il a offert aussi l'agneau. Et il s'est offert comme pain et comme agneau. C'est en même temps une alliance universelle. C'est pour ça que dans la pomme, il y avait le germe de la première vigne qui a existé sur la terre et que Noé a sorti pour l'humanité tout entière, et le vin est là, c'est Noé. C'est une alliance universelle. Une alliance paternelle, parce qu'il y a la communion au pain et au vin, la rencontre du pain et du vin et du pain, dans les noces de la foi. En Abraham, c'est une alliance vraiment paternelle. La paternité de Dieu dans le Fils nous est donné dans la plénitude de notre réalisation dans la chair. Enfin, c'est une alliance de miséricorde et de justice. Parce que de la mort et de la blessure du cœur de Jésus émane l'eau. Donc c'est le pain et l'eau. C'est une alliance royale et prophétique. Parce que dans la communion, on apporte le vin des noces de l'Église tout entière à Jésus, prêtre éternel, assis à la droite du Père, et au maître des noces. Et l'unité du Père et du Christ, prêtre éternel, cette soif qu'il a exprimée sur la croix, dessine et révèle la soif de la mendication des noces apportées dans l'alliance royale et prophétique de la communion. Et enfin, c'est une alliance mystique de l'Église accomplie dans la fin des temps. C'est pourquoi le pain est embrasé, consumé par le feu victimal, universel, de l'humanité tout entière, à travers nous. D'accord ? Vous commencez à comprendre comment on lit ce tableau ? Alors, on peut faire, bien sûr, c'est l'objet d'ailleurs du petit livret blanc sur l'Eucharistie, c'est de relire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette grande messe que réalise l'ensemble de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si vous lisez la Genèse et l'Apocalypse, comme ça, sans vous arrêter, vous avez l'équivalent du côté de la mendication de la parole de Dieu comme nourriture d'une messe. C'est l'objet de cette colonne qui est ici, Genèse, Exode, Lévitique, Samuel. Roi, Cantique des Cantiques, Livre de la Sagesse. Voilà pour l'Ancien Testament. Nous verrons aussi, bien sûr, que chacune des évangiles de la Haggadah du Christ est structurée aussi par la messe. C'est que des exemples, s'il fallait mettre tout, évidemment, on ne pourrait pas tout mettre, mais c'est pour qu'on comprenne quand même, petit à petit, comment on rentre dans la vision intérieure de ce qui est cette mission invisible du Verbe de Dieu et du Saint-Esprit dans une seule mission invisible dans l'Eucharistie en nous, à travers le cœur de Marie et de la Jérusalem glorieuse, présente dans la charité spirituelle de notre foi, de notre participation, de notre coopération eucharistique à la messe. Je ne vais pas faire le petit rabbin avec vous. Et je vous signale qu'on peut bien sûr prendre, puisque aujourd'hui on fait mémoire. À la messe, c'est ce qu'on a fait. Et puis même, c'est un magnificat, le nom de Jésus. On pourrait prendre les cinq lettres du nom de Jésus. Yod, He, Shin, Vav, He. En l'occurrence ici, là, c'est les cinq premières lettres de l'alphabet hébreu. A, B, G, D, He. Mais on peut très bien faire, pour un petit exercice, le petit juif qui est en vous, on est quand même plus que des goïms, puisqu'on est les fils d'Abraham. Donc on peut quand même... On est le nouvel Israël. La France, c'est Nouvelle-Israël, la Jérusalem spirituelle au milieu des multitudes, c'est nous. Donc, Yeshua, on connaît, Yod, He, Shin, Vav, He. Yod, bien sûr, Yod, c'est le nom de la paternité de Dieu, qui explique, et qui exprime, et qui exige. Ce n'est pas qu'elle l'exige, c'est que... L'adoration de la création tout entière... La résurrection, ça fait partie de la création. Hein. La gloire du ciel de la résurrection, elle est créée. Le monde angélique, il est créé, même glorieux. Hein. L'univers est créé, nous sommes créés. Hein. Et tout est... dans une espèce de silence d'union avec le Yod, la délicatesse silencieuse du Père. C'est le Yod, ça. Yod, en hébreu, s'exprime bien. La fragilité, la délicatesse, la fécondité silencieuse du Père. On représente toujours le Père comme... puissant. C'est pas du tout l'enseignement de Moïse, ça. Le Yod, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Jésus dit... Enlevez-le de la Torah. Il n'y a plus de Torah. Le Père, c'est très, 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 très délicat. Et Abraham est très, 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 très magie, c'est dans cette fragilité qu'il y a la bénédiction de Melchisedec en lui. Comme le Père, alors il est le Père de tous les hommes et de tous les êtres spirituels, ensemble de l'intérêt de la réunion naturelle de la foi. Et Dieu est le Père, l'ultitude, le bête, oui. La deuxième lettre du nom d'Elohim, c'est le Hé. Le Hé, c'est la cinquième lettre de l'alphabet en hébreu qui exprime le parfum de l'épousé. Vous voyez, ça s'écrit comme ça. Un et deux, ça fait si vous voulez comme ça. C'est une espèce d'intériorité toute parfumée de la sponsalité de l'épousé. C'est le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, il est en même temps l'engendré, mais en même temps le Verbe. Et entre les deux, il est l'épouse. Et la lettre E, vous avez des centaines de pages des commentaires de Moïse sur la lettre E, c'est extraordinaire. Sur le parfum de la femme. La femme émane les parfums. Oui, c'est le Verbe de Dieu. Le Shin sera forcément au milieu, qui exprime que l'amour est enraciné dans toutes les dimensions de la Très Sainte Trinité et dans toutes les dimensions de la matière. L'amour est fort, vertical, enraciné. Le Shin, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est le Dalet, qui est la quatrième lettre, correspond à la... Le Dalet en hébreu, c'est la quatrième lettre, ça veut dire c'est les portes. À un moment, Jésus dit « Eye Dalet, je suis la porte. » Dalet en hébreu, ça veut dire porte, une porte. Une porte s'ouvre. Hein, dès lors qu'il y a l'incarnation, le Shin, ben, le Hé va s'ouvrir. La croix, c'est une immense ouverture. Et quand il dit « Je suis la porte », c'est la croix. Hein. La porte est en bois, et ça ouvre tout. L'ouverture. Le corps, c'est lié au corps. Dalet est toujours lié au corps. Donc, Yod, He, Shin, Vav. Le Vav, c'est cet amour qui est entièrement ouvert. Il n'a rien à ajouter. Jouissance infinie, absolue, éternelle. C'est l'Esprit Saint. Et la dernière lettre du nom d'Elohim, Yod, He, Vav, Shin, Vav, He. Voyons, on le retrouve à nouveau le Hé, mais cette fois-ci, c'est le face-à-face de l'épouse, le Verbe de Dieu, d'avant la création du monde, et de l'épouse, la Jérusalem glorieuse, qui subsiste dans le Verbe de Dieu. Les deux épousés sont une seule épousée dans l'unique Verbe épouse du Père, et c'est pour ça qu'il y a une subsistance, il y a une pénétration et une... Et tout est sponsalité in traverbum dans la vision béatifique à l'intérieur de la Très Sainte Trinité. L'humanité tout entière a pénétré dans le parfum de l'épouse et de l'époux. À l'intérieur de la vision béatifique, c'est ce qu'exprime ça, voyez. Parce que nous vivons dans la communion. À la communion, vous voyez, c'est au moment de la communion qu'on a la colonne de la communion. Au moment de la communion, c'est l'humanité tout entière qui est au-delà de toutes les gloires de la résurrection et de toutes les splendeurs de la grâce de toute la terre qui est présent en nous et dans laquelle nous nous enfonçons avec le Verbe de Dieu, l'épouse, enfin avec la deuxième personne de la Trinité, qui rassemblant toute la création, tout l'accomplissement, la plénitude de tous les temps en lui. Et Marie est effacé, Jésus t'efface en Marie, parce que Marie est l'expression sponsale de l'épouse, donc de sa hypostase agréée éternelle, ainsi que la Jérusalem glorieuse et céleste. Et tout cela s'efface en nous, et nous avons, si je puis dire, fonction de faire cette unité de l'épouse, de toutes les manifestations de la sponsalité de l'épouse, dans tous les accomplissements, quels qu'ils soient, faire l'unité de l'épouse dans ce rêve final de la communion, ça appartient à la charge, la mission, la vocation, la mission invisible des chrétiens des derniers temps. Et tout ça, ça fait partie de la messe, bien sûr. On va laisser donc passer les mots hébreux. Je vous signale bien sûr que le pain, ça se dit lehem en hébreu. Lehem, beit, lehem, la maison du pain. Ça, vous le saviez, je suppose, n'est-ce pas? Ah! Alors, dans Saint Jean, on peut prendre aussi l'évangile de Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, il a écrit après l'Apocalypse. C'est important de savoir ça. Il a vu dans la lumière de l'Apocalypse l'accomplissement des temps que Marie lui a montré, dont il s'est nourri pendant 40 ans, et qu'il a vu, du coup, et qu'il a assimilé, et qu'il a été la nuit pour le donner à l'Église tout entière dans l'Eucharistie jusqu'à aujourd'hui, Saint Jean. Et du coup, il a écrit l'Évangile pour qu'on puisse y pénétrer en pleine lumière, en pleine action de grâce, en pleine gratitude, en pleine liberté, en plein amour aussi. Eh bien, comme par hasard, cinquième psaume de l'Apocalypse, comme par hasard, il y a cinq repas dans l'Évangile. Le premier repas, c'est Cana, c'est un repas. La multiplication des pains, c'est un repas. C'est là que je t'ai dit quoi? C'est la multiplication des pains. Judas a dit, quoi? Il veut donner sa chair à manger? On ne peut pas le suivre. Judas n'était pas présent à noces de Cana. Il y avait les six premiers apôtres, mais il n'y avait pas Judas. La première fois que Judas participa à un repas, vous voyez, ceux qui arrivent en retard à la messe, ils arrivent au moment de Judas. Intéressant ça. Moi ça me plaît ça. Multiplication des pains. À ce moment-là, Judas a dit, on va pas accepter, on va pas le suivre. Celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie, il n'aura aucune part au royaume de mon Père. C'était la multiplication des pains, c'était un repas. Il pensait qu'avec Jésus, tout allait bien. Plus besoin de bosser, plus besoin de travailler, et on a à bouffer. C'est merveilleux, et on est content. Donc si le Messie est là, tranquille, toboggan, on peut regarder le film, et puis c'est bon, et on va au ciel. Il n'y a pas besoin de faire oraison, puisque voilà, il y a tout. Alors Jésus dit, attendez, vous voulez me faire roi parce que vous ne voulez pas travailler. C'est-à-dire que vous ne voulez pas la transformation, vous ne voulez pas de l'union transformante, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas de l'union transformante. Le travail, c'est la transformation de la matière, de l'humanité tout entière. C'est ça le travail. Et Judas, non, il ne voulait pas. Il voulait une transformation temporelle, là. Mais pas eucharistique. Et remarquez bien qu'à Béthanie, Judas est encore là. À Béthanie, la pécheresse répand son parfum. Il y avait 3 ans de salaire dans ce parfum, dans l'albatrone de Madeleine. 3 ans de salaire. Alors Judas, il est comme il comptait le fric. Hein. Il faisait des dettes de partout, il les remboursait jamais. Et l'argent, ça, c'est quand même important pour lui. Si on pouvait prendre un petit peu au passage, pas beaucoup, normal, puisqu'il rend service. Hein. C'est ça. C'est l'évangile, c'est Saint-Jean, il signale ses 4 points de Judas à ce moment-là. Et. Il dit, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait là? Et c'est Jésus qui reprend Judas en disant, ce qu'elle a fait. C'est pour le grand sabbat de mon saint. Le grand sabbat de la transformation. Et quand Dieu le Père, c'est lui qui fera le travail. Dans le samedi saint de mon tombeau, la mer. Alors, au-delà de la fin du monde, c'est d'elle qu'on parlera, c'est pas. C'est ça que Jésus dit, ça c'est bien. C'est pour ma sépulture qu'elle fait ça. Bah, elle, 1, 2, 3, 4, la quatrième, celle de la croix. Et oui, celle de la croix. La scène, quand Jésus transforme la présence réelle, messianique de sa présence, personnelle et messianique, pleine de grâce jusqu'à la fin du monde, dans la présence de sa croix. C'est la scène. Et c'est Saint Jean qui note dans la scène, tandis que les autres évangiles, que Jésus se met à genoux, lave les pieds de ses disciples et fait le passage de la bouchée à Judas. Puis ça, à chaque fois, vous avez Judas. Hein. C'est pour ça que Saint Paul dit celui qui mange et boit sans rentrer avec ça dans l'union transformante a mangé et bu sa propre condamnation. C'est pas juste un pain comme ça où Jésus se donne à nous et puis ça nous fait du bien, ça nous donne des forces pour continuer à avoir la foi. Si c'est que ça, c'est pas bien. Moi je vais à la messe, ça me fait du bien, hein. J'ai la foi, je continue avec ça. C'est pas ça, c'est ancien ça. C'est le monde ancien ça. Et Jean, dans Saint Jean nous montre ça. À la résurrection, Jésus sur l'autre rive du lac, il a fait griller le poisson. Et il y a du pain aussi qui cuit. C'est un repas. 153, ça représente le corps mystique vivant, tout entier, de l'Église tout entière, du corps mystique entier, vivant, Jésus vivant et entier, de la fin du monde, hein, ressuscité. Il y a quelque chose de ça, que nous produisons par l'union transformante du cinquième saut au sixième saut de l'Apocalypse, en rendant présent dès cet instant d'aujourd'hui la présence accomplie de la résurrection universelle du corps mystique vivant tout entier, de tous les membres vivants, corps mystique vivant entier, c'est Jésus vivant et entier. Tout entièrement brûlé par l'au-delà de. Et enfin voilà, heureux les invités au festin de l'agneau. Voilà. Donc vous voyez bien qu'à travers ça, un tableau comme ça, vous voyez, si on l'approfondissait, on verrait dans la relation de. Non seulement, vous voyez, cette montée horizontale, mais on verrait qu'il y a une relation intérieure dans notre âme, dans notre corps, dans notre grâce, dans notre union d'assomption avec Jésus, dans son union hypostatique, avec la très sainte Trinité, à chaque fois, il y a une correspondance, une manière de le vivre, de le contempler, de dire oui, de s'y effondrer, et que ça se réalise dans l'engendrement que le Père en fait à travers nous, sous le souffle du Saint-Esprit. Et c'est à force de connaître la doctrine infaillible de l'Église révélée que du coup, on devient, vous voyez, c'est pas très compliqué quand même, de dire voilà, quand les cloches sonnent, attendez, nous, soyez présents. Il y a des fois où des cas de très grande nécessité. Très bien. Ok, voilà, on arrive. On a déjà au Kyrie Eleison. N'est-ce pas? Mais sinon, non, on fait pas. Alors, voyez. C'est à propos de l'encyclique de Paul VI qu'on avait mis les cinq parties du corps mystique dans l'Eucharistie. Vous vous nourrissez du corps mystique de Jésus. Vous vous nourrissez mystiquement du corps personnel, vivant, lumineux de Jésus d'amour. Et une tension entre corps mystique de Jésus et corps mystique tout entier de Jésus. La Jérusalem céleste, qui elle-même est consommée par l'au-delà, à travers Boum, par le Père, dans le souffle de l'Esprit Saint, dans la disparition de l'époux et de l'épouse, il consomme le corps mystique tout entier de la Jérusalem glorieuse. Et pape Paul VI, dans Mysterium Vitae, dit bien, c'est curieux que dans la l'évolution du temps de l'Eucharistie, il y a ce passage du corps mystique de Jésus qui devient le corps mystique de l'Église tout entière. C'est beau ce qu'il dit le pape. Dans ce temps encyclique mystérieux. Et vous l'avez ici, là. Dans le corps mystique, bien sûr, qui a l'humanité intégrale, glorieuse, de Christ ressuscité, et dans Marie ressuscitée, médiatrice, est assumée. Quand Jésus est ressuscité, il est assis à la droite du Père, il est prêtre éternel. Mais quand Marie, dans l'adormition, grâce à Saint Jean, c'est-à-dire la messe de l'Église catholique, qui est restée, qui est là avec les apôtres, célèbre la messe, parce que lui, il sait très bien ce qui est en affinité avec le Christ Jésus prêtre éternel dans la dormition de l'Immaculée Conception. Il célèbre, il dit oui, et une supervenue du Saint-Esprit. Nos bons bras du Père qui permet de passer de la dormition à l'assomption. Et le Verbe de Dieu qui est la, qui est épouse, qui est féminin hein, dans la très sainte Trinité, la personne du Verbe de Dieu, féminine, épouse dans la très sainte Trinité. Quand il est ressuscité, lui, Jésus, dans son humanité, il est masculin. Donc la résurrection n'est pas complète pour le Verbe de Dieu, pour la première, deuxième personne de la très sainte Trinité. Il ne peut pas encore, dans sa résurrection de sa chair, se donner avec la résurrection au Père. Et donc il va assumer la féminité glorifiée dans la résurrection de Marie. Et là, dans l'au-delà de l'été des deux, il s'effondre en elle. Et Jésus, dans sa résurrection, est obligé de s'effondrer à l'intérieur, de disparaître dans la résurrection de Marie, en l'assumant. Et à ce moment-là, l'épouse, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, peut rentrer dans une responsabilité avec le Père. Et à ce moment-là, sacerdoce, victimale, éternelle, d'amour du Verbe de Dieu dans la chair de la résurrection glorifiée, est rendu possible dans Saint Jean. Dans le Jean, le Ranan de l'Apocalypse, et donc dans l'Église catholique. C'est facile à comprendre ça, hein, j'espère. Alors l'Église devient militante, mais on assume bien sûr la présence de l'Église qui se prépare dans la dormition, c'est-à-dire après la mort, à la purification, l'union illuminative, l'union parfaite du purgatoire, mais aussi l'Église glorieuse qui est en attente. Tous les saints du ciel sont en attente, ainsi d'ailleurs que les anges. Et tout, c'est cet aspect du corps mystique de l'Eucharistie, sont présents dans la mendication eucharistique, dans la transformation eucharistique, dans la manifestation finale eucharistique de la messe. Et c'est nous qui faisons, par la foi, L'amour, l'union transformante, ce lien d'unité en nous y engloutissant dedans, de toutes les formes de ce corps mystique. Par exemple, je voulais bien vous l'expliquer à l'instant, c'est bien la foi admirable en affinité de Saint Jean et des apôtres qui, en célébrant la messe, ont permis qu'il y ait le passage de la Dormition à l'Assomption de la Vierge Marie. Donc c'est bien l'Église qui a fait l'unité. Que Dieu fasse confiance à Marie, jusqu'à l'Assomption. Mais après, Jésus et Marie et les pauvres font confiance à l'Église pour le reste. C'est extraordinaire de voir la confiance que Jésus a fait à Marie. La confiance que l'Église de la résurrection de Jésus, Marie et Joseph fait à l'Église de la fin des temps. C'est pas rien, hein, la doctrine de l'Église, n'est-ce pas? Bon. Alors, si vous voulez un jour méditer un petit peu en lisant l'évangile de Saint Jean, vous lirez le chapitre 6. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 6, c'est là où, vous voyez, par exemple, ce qu'il faut que vous, je vous signale à ce sujet, quand vous avez un tableau de ce genre, vous avez par exemple une case. Par exemple, la case Bonum, là-haut. Et vous descendez et vous arrivez à Saint Jean, première épître, Cana, multiplication des pains. Vous le voyez? Vous voyez ici, multiplication des pains, entre parenthèses, marqué 6. Ça veut dire c'est chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Vous voyez cette case-là? Bon, cette case, vous la prenez, c'est comme pour un ordinateur. Vous prenez cette case, hop, vous cliquez dessus, et vous l'avez, Jean 6, verset 16 à 21. Et vous cliquez, et ça s'ouvre ici, n'est-ce pas? C'est un nouveau 7. Hein. Vous pourriez faire ça à l'infini, remarque bien. Le Saint-Esprit nous fera ouvrir ces choses à l'infini, hein, de toute façon. Ben. Alors vous verrez que dans chapitre 6 de Saint Jean, c'est là que Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le pain. Je suis le pain de la vie. » Enfin, plusieurs fois, de manière différente, il dit « Je suis présence réelle, personnelle, actuelle, féconde, vivante, efficace, de son aïe à l'intérieur de la nourriture que nous offrons au Père dans l'accomplissement eucharistique de tous les temps. » Et ça, c'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6. Alors, vous regarderez, il exprime ce « Je suis le pain » pour montrer que c'est une présence personnelle, c'est une présence de paix, que c'est une présence sensible, que c'est une présence dans la lutte, que c'est une présence efficace. Prenons par exemple la présence efficace. Une fois qu'il a multiplié les pains, verset 21, et deux apôtres allons de l'autre bord, ils vont sur l'autre bord, et ils n'y arrivent pas. Jésus, lui, est parti de l'autre côté. Mais ils n'arrivent pas toute la nuit. Jésus vient dans la barque, en marchant sur les eaux. Et aussitôt, alors qu'ils n'ont fait qu'un tiers du passage, après avoir ramé pendant 10 heures, ils en avaient marre. Il est rentré dans la barque de l'église. Et aussitôt, ils étaient sur le bord opposé. C'est une présence efficace, présence du pain de vie. On est tout de suite arrivé à la fin, immédiatement, dans l'église. C'est comme ça. Alors, tant que tu dis j'en ai marre de l'église, continue à ramer, mais si tu vides l'Eucharistie, t'es arrivé. Quand vous prenez les chapitres 6 à 11 de l'évangile de Saint Jean, à partir du moment où il a révélé l'Eucharistie, que le mystère de l'iniquité est déjà présent dans le corps apostolique de Jésus, avec Judas. Parce que là où Judas a dérapé, c'est qu'il a refusé, il a dit on ne peut pas le suivre, il donne sa sœur à manger, hein. On ne peut pas le suivre. Hein. Saint Jean qui note que c'est là que Judas a dérapé, hein. C'est sur l'Eucharistie qu'il a dérapé Judas. Ça lui apprendra à ne pas être là présent en os de canard. Ça dure Mr. Lorenz, hein. Comprenne qui pourra. Eh bien, à partir de ce moment-là, tout va se déchaîner en Israël, c'est les Yahoudim contre Jésus. Tout va se déchaîner contre lui. Et alors, il y a tous les exégètes spécialistes de Saint Jean, ils disent, ben, voilà, les autres évangiles, oui, on arrive à faire de l'exégèse, c'est ordonné, on voit, il y a un ordre, il y a progression, enfin bon, on arrive à voir, bien sûr, que c'est un unique auteur. L'évangile de Saint Jean, il doit y avoir certainement plusieurs auteurs, c'est totalement anarchique, on n'y comprend rien. Il n'y a aucun ordre. Il n'y a aucun ordre. Pourquoi ? Parce que c'est une anarchie, mais alors totale. On ne sait pas où il est. Ici, dans Galilée, ici, à Jérusalem, s'il est ici, ici. Mais c'est la lutte, une lutte effroyable. On n'y comprend plus rien, on n'y comprend plus rien. Mais pendant le chapitre 6 jusqu'au chapitre 11, il y a la présence. Et Jésus va dire 33 fois qu'il est Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est la constante, c'est la présence réelle. Et la première fois qu'il dit ça, c'est « Je suis le pain de la vie », chapitre 6. Et après, c'est « Je suis la résurrection ». »« Je suis le Fils ». Avant qu'Abraham, « Je suis ». »« Je suis, c'est moi ». Sept fois, il va exprimer sept fois qu'il est le « Je suis », parce que bon... Mais en 33 fois, c'est beau ça. Parce que je suis pas la vie, il dira 5 fois, bien sûr. Et puis je, le pain. Et puis je suis la lumière du monde, il va le dire 6 fois. Etc. Au total, ça fait 7 fois je suis. Et 33 fois. Entre chapitre 6 et chapitre 11. Donc il y a un ordre parfait. Mais les exégètes n'ont pas compris l'attraction eucharistique du Père dans le parcours du chapitre 6 au 11 de l'Apocalypse de Saint Jean et de l'Apocalypse de Saint Jean dans l'Évangile. Le Père nous attire en Marie et c'est l'Eucharistie. S'attire profondément en elle. Et c'est je suis. C'est Dieu. Et nous aussi, avec elle, nous l'assumer. Et dans l'au-delà de l'Apocalypse de l'amour, nous voici. Je suis universel et éternel, qui est le nôtre dans le je suis de Dieu, comme vient de dire le Saint-Père aux jeunes à Denver, en proclamant la guerre finale du monde aux puissances de l'enfer et de la terre. Cela c'est pas avec lui, hein. Je lui dis 20 000 fois, j'ai écouté. Dieu. Jésus. Et Père Emmanuel disait, mais Père Marito, enfin, Père Emmanuel, comment vous faites pour avoir toujours quelque chose à dire, comme ça, continuellement. J'en suis totalement incapable. C'est marrant parce que l'humilité bénédictine face à la surabondance contemplative dominicaine, c'était extraordinaire de voir ça. On était entre les deux. Vous voyez comment on lit cette... Ah, il y a un passage Ah oui, dans Saint-Jean, on peut noter aussi, tiens, voyez, ici, on prend ici le fameux « en vérité », je vous le dis. Et ça correspond, c'est aussi le chapitre 6, et Jésus va dire « en vérité, je vous le dis ». Dans le chapitre 6, il va le dire 5 fois. Alors c'est très important encore. C'est Saint-Vincent de Paul qui disait que quand Jésus disait « en vérité »,« en vérité », 2 fois, à l'intérieur de la vérité éternelle, c'était le Verbe de Dieu qui parlait. Dans la double hypostase, sa présence divine, personnelle, c'était le sommet de la montagne. Alors là, Saint-Vincent de Paul disait « ah, là, on s'enfonçait ». Bien sûr, en vérité, là, il dit 5 fois, au moment où Jésus s'exprime, pour dire qu'il est le pain, la nourriture. Et vous les avez ici. Hein. En vérité, je vous le dis, je demeure dans le Père. Et le Père demeure en moi. L'Eucharistie, c'est cette demeurance. Le fond du Père, il assimile, et du coup le Père demeure en lui, et en nous aussi, du coup. C'est le lieu de la demeurance. C'est fort, ça. Je m'excuse, mais c'est très fort. En vérité, je vous le dis. Je suis le pain de la vie, descendu du ciel, celui qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie du Père. Le Père est vivant. La première personne de la Sainte Trinité n'est pas du tout une personne qui n'est pas vivante. Et celui qui donne sa propre vie, la vie éternelle, c'est le Père. Quand il donne sa propre vie éternelle, il donne ce qui est sa propre vie, ce dont il se nourrit pour être le Père. Et ça, c'est l'Eucharistie. Et la présence réelle, cette donation de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie propre et personnelle du Père, et le « je suis » du pain qui descend du ciel en nous. Alors, vous avez la fameuse attraction. Dans le verset 33-46. En vérité, je veux pas la vie. Et le Père attire tout. Quand je serai élevé, j'attire tout à moi. Avant qu'Abraham fût. Ben vous avez aussi verset 26, 32, et un petit peu avant chapitre 6, chapitre 5, verset 19, 24, et verset 19, 24 et 25, mais aussi les versets de la fin du chapitre 6. Pour montrer que le pain de la vie, je suis le pain de la vie. Hein, c'est quand on lui dit, c'est quand Judas dit, attends, on ne peut pas accepter ça. Dans sa chair, et tout le monde l'a quitté à ce moment-là. Ils étaient des fous, là. Du coup, ils commencent à dire, il est timbré. Il pète un câble. Forcément. Et Judas, il dit ça, il pète un câble. Il n'est pas le seul, puisque Jésus se retrouve avec... Il y en a quelques-uns, peut-être 10, qui hésitent encore. Alors il dit, vous voulez partir aussi. C'est là, c'est à ce moment-là. Mais la chair ne sert à rien. C'est l'esprit. le pain de la vie. C'est la vivification spirituelle de la troisième personne de la très sainte Trinité dans la passivité substantielle agréée d'amour du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nourrit. Dans mon corps abandonné, ouvert, moi je vous ai choisi. Et cette espèce de saut, de niais, de Judas est resté quand même. Il aurait dû partir. Et donc il y a une manière spirituelle d'assister à la messe. Une spiritualité de la messe, une spiritualité eucharistique. Et puisque c'est la présence d'une demeurance en vérité, dans le Père, du Père, dans le Fils, dans sa servance éternelle et victimale, dans le sacerdoce éternel d'amour, victimale, d'amour éternel, où le Père et le Fils sont un seul, et le Père dans le Fils un seul amour, victimale, éternel, il ne faut pas l'oublier, hein. Et là, ici, vous voyez, quand on vit ça mystiquement, on est capable d'entendre l'Évangile. On est capable d'être conçu à la messe, né à la messe, capable d'entendre l'Évangile de la messe, la parole de la messe. Et donc, comme cet amour victimal, éternel, sacerdotal, de la demeurance du Père dans le Fils et du Fils dans le Père, dans le sacerdoce victimal, après l'ascension, à la droite du Père, le Père lui-même dans le Fils, et du coup cet amour victimal éternel, actuel, inconditionnel d'amour éternel, victimal, délicat, vulnérable, infini. J'entends cela dans moi, dans l'Évangile, et du coup je comprends l'Évangile qui est dit. Et c'est une spiritualité, parce que du coup, de l'unité du Père et du Fils dans cette offrance victimale éternelle d'amour, je peux jouir déjà dans la Haggadah de cette inspiration, de cette inspiration, cette jouissance, je peux jouir du Saint-Esprit dans cette offrande victimale unique, sacerdotale éternelle du Père et du Fils, qui établit le sacerdoce éternel. Cœur du prêtre de Saint Jean, qui lit l'Évangile. C'est une spiritualité, ça. Une manière de se préparer en tant que moine. Et c'est sûr que si on arrive au moment du serment, on n'a pas pu faire ça. Ça va. Il doit encore en dire le serment. Comme il est débile, il louche et il zozote. Vaut mieux arriver vers la fin du sermon. C'est mieux. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'il n'accepte pas. Il refuse que la dévotion des sept cœurs unis aux sept douleurs sacrées de la neuvaine irrésistible de Sainte Gertrude. Alors quand même, bah, écoutez ce qu'il dit, non. Personnellement. Et pas que. Ça pullule. Oui, il y a une spiritualité dans le Christ. Une spiritualité. Rentrer dans la spiritualité de Christ sans faire au raison. Alors, vous pouvez lire, donc, c'est extraordinaire. De pouvoir offrir. C'est une présence réelle, attention, hein, l'offertoire, l'hostie et le vin. Il n'y a pas eu la transsubstantiation, d'accord, mais c'est quand même la présence réelle de la grâce qui assume Marie, qui assume le corps du Christ dans sa grâce capitale. Et dans les sources de toutes ces grâces messianiques, jusqu'à la fin du monde. Il y a une présence véritable, sacramentelle. Ça, c'est une explication de saint Thomas d'Aquin et du Concile de Trente. C'est pas du tout un truc... Et on offre, et on vous sentez bien d'ailleurs quand on fait l'offertoire. C'est ce que disait quoi. Vous allez voir n'importe quel prêtre du rite de mode extraordinaire, il vous dira, je m'excuse, mais enfin, je suis déjà présent hein, dans le style. D'ailleurs, c'est marqué dans la liturgie, hein, du canon du offertoire. Et c'est beau, ça, c'est vrai. Offrir Marie à Jésus ressuscité, offrir ce qui est immaculé dans l'Église tout entière d'aujourd'hui, qui appartient à la foi immaculée de Marie dans tous les croyants, offrir tout ça en présence réelle, dans l'offertoire. On offre quoi? On offre l'hostie. On offre le vin dans la coupe. Pour dire la vérité, si vraiment offrir Marie à Jésus ressuscité, si vraiment spirituellement on vit l'offertoire de l'intérieur de l'offertoire, si on participe, si on coopère à la messe, si on assiste à la messe en coopérant par la foi, l'espérance et l'amour, ça veut dire toutes les messes qui ont déjà été dites jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de cause diminuante hein, dans le mystère de l'extension et de la fécondité eucharistique. Toutes les messes qui ont été dites jusque maintenant, avec tous leurs fruits, sont dans l'hostie, qui va être consacrée pour une plus grande fécondité encore. C'est bien la présence réelle qu'on offre. Oui ou non? Parce que si à chaque messe, dis-moi là, ah ouais, maintenant je suis habitué, vous savez, aller à la messe, maintenant je suis habitué. Hein. Une autre messe. C'est une... Pourquoi? Parce que on a récapitulé, on possède tout. Nous sommes les possesseurs. Nous avons assumé, nous avons reçu dans l'union transformante ce que l'Église a fait. Et le bon Dieu nous le redonne dans l'Eucharistie, dans la nouvelle incarnation, la nouvelle nativité, la nouvelle fruition du Saint-Esprit dans la demeurance sacerdotale. On est unis au prêtre, quand même. Il n'y en a qu'un prêtre. Et dans son cas, on a reçu déjà. Jésus va pas revenir en arrière, pourquoi faire une messe pareille? C'est ça que Luther trouvait insupportable. Il avait raison. Prêtre de Baal, il disait auprès de l'Église catholique, vous recommencez tout le temps le sacrifice, mais n'importe quoi. Il avait raison. On ne recommence pas le sacrifice, il n'y a qu'un seul sacrifice, un seul prêtre. Mais il ne cesse de réaliser ce qu'il signifie, tous ces fruits jusqu'à l'accomplissement des temps. C'est Marie qui a voulu ça. Et Jésus a assumé, le Père aussi. Et faisant cela, on aspire à offrir ce que l'Église fera après l'accomplissement en Marie et en Jésus du sacrifice eucharistique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce passage ici. Anticiper notre résurrection dans la résurrection du Christ. Voilà une manière spirituelle très belle. De comprendre ce que Marie fait à chaque Eucharistie de sa vie. Elle anticipe toutes les résurrections dans le sacrifice eucharistique de tous les temps et de tous les lieux. Elle va toucher le point de l'accomplissement de la fin des temps où les temps disparaissent totalement dans la résurrection universelle de l'homme. Elle l'anticipe en elle dans l'accomplissement eucharistique du sacrifice de la croix. qui lui a permis de rester debout. Parce que si Marie s'était effondrée, comme on le voit dans le film de Zéphyr et Vie. Zéphyr, il n'a pas compris. Il y a des choses que Zéphyr et Vie n'a pas compris. Hein. On voit qu'il n'a pas compris Zéphyr et Vie. Sur Marie, il a foiré tout sur Marie. Hein. Pareil, à la nativité.
Il n'a jamais accouché, mais il le faisait. C'est bien
C'est vraiment une transformation, hein, la consécration. On assiste à une transformation totale de toutes les messes qui ont eu lieu célébrées jusqu'à maintenant. C'est une autre messe. C'est un autre monde. C'est un monde nouveau. C'est le Père travaille. Et moi aussi, je travaille. Et la messe, c'est aussi donc la communion, bien sûr. Le passage du temps de la messe, puisque l'accomplissement du temps de toutes les messes, jusque la messe de l'agneau de Dieu sont là, récapitulé, anticipé, unifié, le temps est introduit, englouti, disparu dans l'éternité. C'est le passage du temps à l'éternité, la messe. Et ça, c'est notre manière de vivre la messe. Ça s'appelle la spiritualité eucharistique. C'est de cette manière qu'on suit la messe. Dans les cinq déploiements, vous voyez, c'est-à-dire les cinq manifestations de notre présence spirituelle à la messe, dans la manière d'être à la messe, d'être amour, surabondance d'amour et de bonté dans la messe, de la bonté de Dieu, d'être en vérité, lumière, contemplation dans la messe, d'être vie éternelle dans la messe et d'être les instruments donc du passage du temps à l'éternité, du devenir éternel de la messe à partir du temps. C'est un devenir substantiel, la messe. C'est un devenir substantiel. Dans le devenir, un temps fait que la chose se transforme dans un mouvement et c'est autre chose dans le temps. Mais quand c'est un devenir substantiel, c'est tous les temps qui deviennent l'instant éternel, englouti dedans. C'est un devenir substantiel. C'est Aristote qui dit ça, le vieux païen. Le vieux païen, il avait beau être homosexuel, il n'était pas si bête. Mais il n'était pas venu en os de Cana. Sinon, il aurait vu ce que c'était que la signification sponsale du corps. C'est vrai, c'est sûr ça. Eh bien, figurez-vous, c'est à cause de ça, quand tu veux dire, voilà, l'Eucharistie, c'est important le nom de Jésus. L'Église nomme avec des mots justes. Pensée juste et l'acte juste, l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il y a sept manières d'exprimer par des mots l'Eucharistie. Vous saviez ça? C'est une synaxe. C'est une messe. C'est une Eucharistie. Et si vous l'avez ici, les sept mots. Hein. C'est le sacrement des sacrements. C'est le mystère de la foi. C'est le viatique. C'est le mémorial. C'est le Saint-Sacrifice. C'est l'hostie. C'est le repas, l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie. Eucharistie en grec, Eucharistia, ça veut dire action de grâce, gratitude substantielle, gratitude éternelle. Pourquoi est-ce qu'il y a ces sept mots? Mais c'est pour exprimer simplement ces sept grandes dimensions en nous de l'Eucharistie. Et évidemment, l'Eucharistie, à chaque messe, en fonction de chacune de ces grands mouvements éternellement grands et miraculeux de l'Eucharistie en nous, quand nous nous y coopérons avec Marie et Jésus, prêtre éternel, dans l'union hypostatique désirée du sacrifice de Jésus, mais c'est une révolution totale. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est bien, j'aime bien cette ligne-là. C'est la révolution parfaite. Ah, la révolution des sacrements. C'est une recréation. Avec la liturgie de la parole de Dieu, de la lumière, c'est une transformation, parce que la forme, c'est la lumière dans la matière. C'est une transformation, c'est une transfinalisation, parce que toutes les finalités, tous les accomplissements se réalisent dans l'accomplissement de qui est l'Esprit Saint dans l'unité du Père et du Fils. Une transfinalisation, c'est une transactuation, d'où l'épiclèse. Vous savez ce que c'est que l'épiclèse? C'est au moment de la consécration. Vous rappelez le Père, bon, un jour il y avait tous les évêques de France à Lourdes. On disait, mais mon Dieu, mais je reconnais, je suis un pauvre pécheur, j'avais un doute. Est-ce qu'il croit vraiment? On a regardé, vous avez tous vu sans doute aussi cette messe de Lourdes. Monseigneur Billet, Stiger, c'était tous là, tous les évêques de France. Et quand c'est l'air, et au moment de l'épiclèse, à ce moment-là, l'hostie qui était assez grande ici en bas, il y avait la télévision là en face, comme ça, au niveau de la table, comme ça. L'hostie, l'épiclèse, l'hostie, s'est soulevée sous le souffle du Saint-Esprit. Alors, on voyait les mouvements de la chasuble du Monseigneur Billet. Et lui, il était là. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Alors, à un moment donné, il faut prendre l'hostie. Hein. Mais alors, il s'est... Vous l'avez, hein, en film, en vidéo, vous l'avez vu.
Je l'ai, je l'ai.
C'est passé à la ça passe en direct à la télévision française. Il y a 3 millions de personnes qui l'ont vu. Hein. Et Mgr Billet, à la fin, dit « Cachez-moi ça, n'en parlez pas. Oui. » Ça n'a pas existé, attention. Pourquoi? Parce qu'à l'épiclèse, le Saint-Esprit prend possession de toutes les messes qui ont déjà été dites, puisqu'on lui a donné au Père et au Fils. Et du coup, Jésus, prêtre éternel, à travers saint Jean de l'Apocalypse, qui est le prêtre, bon, pour réaliser de nouveau l'offrande victimale que Marie va réaliser dans sa présence réelle jusqu'à la fin du monde. Vous voyez bien. Nous, les catholiques, on a perdu complètement. On a oublié ça. C'est pas du tout que l'Église ne l'enseigne plus, mais on s'en fout de la doctrine, puisqu'on est protestant maintenant. Donc, la doctrine, on va quand même... C'est un petit peu cerveau, ça nous détourne de nos œuvres, de nos envies. Hein. On a d'autres chats à fouetter, on perd notre temps dans cette histoire. Tout ce qu'on avait programmé fout le camp, j'en ai marre à la fin. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est une transactuation. Une perfection divine absolue va laisser place à une nouvelle perfection divine absolue encore plus intégrée dans l'acte pur de l'antéléchie, de l'énergéia, de l'acte pur de Dieu. C'est une transactuation, l'épiclèse, c'est évident. Et c'est le canon qui fait ça, et avec l'épiclèse. Une transsubstantiation. Et la transsubstantiation. Alors ça, transubstantiation, puisque c'est substantiellement, réellement, que d'une manière nouvelle, il y a la séparation de l'âme, du corps et du Saint-Christ dans son unique divinité et dans son unique sacerdoce éternel d'amour réellement présent en nous. C'est une transmutation parce que du coup l'humanité tout entière est converti, muet, en Jérusalem céleste, en humanité, parfaitement adaptée en infinité. C'est une grande glorification. C'est pour ça que la transsubstantiation, c'est une conversion. On dit qu'il y a une conversion du Christ entier, qui est substantiellement déchiré. C'est une conversion, conversion réelle, dans le réel. Et dans la transglorification, c'est une conversion mystica. C'est une mutation mystique. C'est extraordinaire de savoir qu'on est passé dans un autre abîme mystique. Alors le gros catéchisme, gros tambour, boum, 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 donne Saint Thomas d'Aquin. Bon, si vous n'êtes pas assez mystique, alors prenez Saint Thomas d'Aquin. Vous aurez au moins la grosse batterie, la base, la base. Saint Augustin qui explique que l'Eucharistie c'est la restantum, c'est le signum, c'est la rest signum, c'est le sacramentum tantum, c'est sacramentum et res, c'est la rest sacramentum, c'est la restantum. Je vais expliquer. Ah oui, c'est toujours la présence réelle. Res, ça veut dire présence réelle. Donc au départ, et l'éclosse, c'est l'incarnation, ça y est, il y a la présence réelle. Mais la présence réelle seulement de Jésus. Tantum seulement. C'est la présence réelle. C'est la présence réelle qui va vers le peuple eucharistique. Et aussitôt que la messe a commencé, qu'on a embrassé l'autel, qu'il y a une communion, cette présence réelle, ça veut dire que Jésus, l'incarnation, le Verbe incarné, est présent réellement déjà quand la messe a commencé, bien sûr, évidemment. Mm-hmm. Et c'est simple, mais dans l'état de présence réelle toute simple.
Dieu.
Il n'y a toujours pas le signe. Il n'y a toujours pas le signe du prêtre qui t'a embrassé l'autel, il n'y a toujours pas le signe de l'assemblée, il n'y a pas encore eu les clochettes, tout ça, et le signe n'est pas là. Le signe, le sacrement n'a pas commencé. Le sacrement commence quand le prêtre embrasse l'autel. Et il est lui-même sacrement. Alors le signe est là, c'est-à-dire le signe apparaît. Bon, il est en dessous d'elle, il y a la présence réelle, mais le signe n'est pas la présence réelle. Le signe, c'est le sacrement est présent, le signe. Il est un signe, c'est un signe. Ce signe est là, à travers le prêtre éternel. Et l'autel. L'Eucharistie, c'est un signe. Et aussitôt qu'il y a l'offertoire, aussitôt la présence réelle est mêlée aussi. Le signe est à intégrer la présence réelle dans l'offertoire. Il y a tout, la présence réelle de toutes les Eucharisties, sacramentellement présent, récapitulé ici, dans l'offertoire. Dans le canon, alors, c'est le sacrement lui-même. Qui apparaît. Et à la consécration, à la transsubstantiation plus exactement, Le sacrement est présent, donc lui-même, à l'intérieur de la présence réelle de ce qu'il signifie et qu'il réalise dans la nouvelle transubstantiation. Alors, lorsque dans la communion le sacrement est assimilé par la digestion, assimilé, donc il disparaît, puisque le sacrement, la présence sacramentelle naît là, tant qu'il y a le sacrement, parce que le sacrement et la présence réelle se sont associés de manière substantielle dans la consécration. Mais à la communion, ah, la présence réelle est liée au sacrement. Le sacrement est lié aux espèces, aux apparences du pain et du vin. Mais comme vous allez, c'est assimilé, c'est transformé dans les cellules de votre corps, le sacrement va se, si je puis dire, se laisser assimiler, disparaître, consumer, et il ne restera plus que la présence réelle. C'est pour ça qu'on passe du reste du sacramentum terrestre à la res sacramentum, communion, et le sacrement disparaît, c'est la res tantum, il ne reste plus que la présence réelle. Et la partie la plus importante de la messe, c'est le passage de la res sacramentum au res tantum, puisque c'est là qu'il y a le fameux passage de la transmutation de l'Église tout entière à la transglorification. Là où c'est le plus important, ce qu'on fait, c'est d'être attentif, d'être présent, d'être actué, d'être vivifiant, d'être efficace, d'être fécond, de dire oui, et de permettre qu'il y ait ce passage, qu'on y soit dedans, et l'Église tout entière, du ciel et de la terre, dans ce moment où le sacrement disparaît, puisqu'il est digéré, il ne reste plus que la présence réelle. Parce que si l'Eucharistie est là, c'est uniquement pour ça. C'est donné comme pain de la vie, pour que le sacrement, il est pour son fruit. Ça, c'est l'encyclique de Benoît XVI. Quand le sacrement disparaît, ah, c'est la réalité d'amour du sacrement qui est là, seule présente, et que nous devons, à ce moment-là, faire apparaître dans le devenir substantiel de la Jérusalem finale de l'Église, dans la Jérusalem céleste et surtout l'au-delà de l'éternité de la Reine. Et là, nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont, si nous sommes présents à ce passage, alors ils peuvent faire à travers nous ce que l'Eucharistie a voulu faire. Et si j'ai pris l'œuf, je suis content, vous voyez. Mais l'œuf, c'est pas ça. Tu casses l'œuf et tu le mets sur la poêle pour que ce soit mangé. La coquille, c'est quoi? C'est le sacrement. Quand le sacrement disparaît et qu'il ne reste plus que l'œuf, vite prends-le, mets-le sur la poêle et que ce soit mangé dans l'éternité.
Dans la poêle, ce serait notre hôtel
personnel, hein? Non, je vois que vous n'avez pas bien compris. Il faut être attentif à ce qui se passe lorsque l'Eucharistie disparaît comme sacrement et qu'elle devient réelle, comme charité, nourrissant l'éternité de Dieu. Alors, nous sommes devenus, à titre de croyants, comestibles, assimilables. Parce qu'il y a des gens, il faut le reconnaître, qui sont imbuvables. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Et je suis le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.